Voilà, chers amis auditeurs, nous allons retrouver tout de suite Marie-Françoise. Marie-Françoise qui nous parle de Marthe Robin. Voilà, Marie-Françoise, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir, Jérôme. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient cette semaine, je me permets de resituer rapidement Marthe Robin, donc une grande figure spirituelle du XXe siècle, à l'origine des foyers de charité, mais aussi qui a encouragé beaucoup de communautés nouvelles. Son procès de canonisation est en cours et une étape a été franchie en 2014 où le pape François l'a déclarée vénérable. Alors mon propos ce soir, c'est de vous parler de sa relation avec les prêtres. Elle en a reçu beaucoup, beaucoup, et de toutes sortes. Elle les aimait, elle s'est engagée avec eux. Elle a partagé la mission avec eux. Marthe a été à la fois interpellée par la place des laïcs et en même temps par celle des prêtres. Alors je vais tenter de vous faire découvrir un peu chronologiquement ce que Marthe a vécu avec les prêtres qui ont croisé sa vie. Et puis je tenterai de dégager quelques aspects du message qu'elle semble nous délivrer sur le sacerdoce et sur la complémentarité entre prêtre et laïc. Alors tout d'abord, l'enfance. Comment Marthe a vécu son enfance avec les prêtres qui étaient proches d'elle. Enfant, Marthe a aimé les prêtres. Un attrait assez personnel dans une famille qui était à la limite de l'indifférence. Marthe a choisi d'aller au catéchisme, de faire le trajet, les 2 kilomètres qui la séparaient du lieu du catéchisme. Et même si elle a dit plus tard que le catéchisme de l'époque était bien froid, elle a toujours pris la route avec joie pour aller rencontrer son curé qui lui faisait le catéchisme. C'était l'abbé Père et qui lui fait faire sa première communion. On était dans une période où l'Église traversait une crise. L'anticléricalisme faisait rage, vous savez, même dans le village de Marthe. La franc-maçonnerie s'était développée, il n'y avait plus de congrégation religieuse. Mais Marthe a fait un choix personnel. En 1918, Marthe a 16 ans, elle tombe malade. La maladie évolue, si bien que à partir de novembre 1921, Marthe ne peut plus aller à l'église. C'est fini. Donc ça veut dire qu'elle n'aura plus que très occasionnellement le secours des sacrements. Pourtant, elle cherche de l'aide pour vivre sa maladie. Malheureusement, ça ne marche pas fort avec le nouveau curé, c'est le cas de dire. Parce que c'est l'abbé Faure qui a remplacé l'abbé Père en 1923. Vous voyez, quand Marthe a 21 ans. Alors, c'est un homme ardent, plutôt tempérament missionnaire, mais un peu bourru, pas à l'aise avec les mystiques. Il avait demandé au Seigneur, vous voyez, le jour de son ordination, de ne pas avoir de mystique à diriger. Il a été assez bien servi. Le fait est que ses relations avec Marthe sont difficiles. Il fait peur à Marthe avec sa grosse voix. Et puis, non seulement ça, mais en plus, le curé n'est pas vraiment le bienvenu dans une maison de pratiquants très occasionnelle. Alors, une amie de Marthe, Jeanne Bonneton, essaye de... elle sent que Marthe serait aidée par son curé, elle essaye de lui dire du bien, de l'encourager, écoute, demande-lui de venir te voir. Il est rude, mais il a bon cœur. Et Marthe de lui répondre, il est peut-être bon, mais alors, quand il vient ici, il doit laisser sa bonté derrière la porte. Donc, c'est pas simple. Ma relation avec le Père Faure ne prend pas une très bonne tournure. Il faut attendre décembre 1928, vous voyez, Marthe aura 26 ans, pour que, à nouveau, Marthe croise des prêtres qui vont l'aider non seulement à entrer dans une communion plus profonde avec le Seigneur, mais aussi à rentrer en communion avec son curé. En fait, le père Faure, désespéré de l'état de la paroisse, organise une mission. Donc, deux capucins viennent la prêcher à Châteauneuf. Donc, tous les soirs, voilà, le village se retrouve. Bon, ce n'est pas un très grand succès du côté des villageois, mais à la fin de la semaine, ils vont visiter les malades. Et l'un d'eux, le père, en particulier l'un d'eux, le père Marie Bernard, qui va s'entretenir avec Marthe. Il a dû lui parler du sens qu'elle pouvait donner à sa vie, puis il l'a confessé, il lui a porté la communion. Il a dû aussi parler de Marthe au père Faure, en disant « Mais là-bas, vous avez une âme d'élite, quoi. » Quelques jours à peine après la rencontre, Marthe écrit à son curé une lettre très audacieuse pour lui demander d'être son père spirituel. Elle l'appelle déjà père. Et oui, le Saint-Esprit a fait son œuvre dans les cœurs. Le père Faure accepte. Ils se reçoivent l'un et l'autre dans la foi. Et le père Faure vient visiter Marthe chaque semaine. Et Marthe se confie à lui. Ça ne veut pas dire qu'ils se comprennent toujours bien, mais pour Marthe, c'est un pas décisif et fondateur qui va avoir des conséquences très riches. Avec lui, c'est toute la vie sacramentelle de Marthe qui se met en place. Confession et Eucharistie. Et c'est vraiment les deux flambeaux qui ont illuminé la vie de Marthe. Et Marthe va aussi se confier à lui, partager ce qu'elle vit. Elle ne peut pas partager ce qu'elle vit avec ses parents. Elle a peu d'amis, mais elle trouve dans le père Faure un soutien, un guide. Il l'accompagne et il l'aide à avancer dans sa relation avec Dieu. C'est précieux, un accompagnateur spirituel. D'ailleurs, il ne sera pas le seul à accompagner Marthe, un peu dépassé par sa paroissienne. Parfois, il demandera de l'aide à des confrères. Du coup, la vie souffrante de Marthe prend un sens. Elle comprend que son offrande, unie à l'offrande de Jésus, est féconde, pas seulement pour le monde comme ça dans le vague, mais pour la paroisse, pour les pécheurs de la paroisse, pour les incroyants. Elle se sent engagée dans la mission. Le père Faure lui partage des intentions. Parfois, il lui envoie des personnes qui pourraient bénéficier de ses conseils, de son écoute. Il l'assiste chaque vendredi quand elle revit la passion. Et finalement, entre 1933 et 1936, il prend des notes. Marthe prie tout haut à cette époque-là. Il note tout. Et cela nourrit sa prière. Les notes qu'il prend nous montrent qu'à l'instar de la petite Thérèse, Marthe prie de plus en plus pour les prêtres. Je vous partage quelques perles glanées par le père Faure. 5 janvier 1934. Ô Jésus, j'ai soif de la sanctification des prêtres. J'ai soif de la conversion des pécheurs. Ô mon Jésus, prenez toutes mes souffrances et allumez le feu de votre amour dans le cœur de tous vos prêtres. Mettez donc en eux, ô mon Seigneur, la volonté sincère de se sanctifier, vous qui les aimez tant et qui désirez tant en être aimés. Oh oui, donnez-leur votre amour, donnez-leur la sainte persévérance dans la prière pour demander sans cesse la sainte persévérance dans l'amour. Le 6 juillet 1934. Mon Dieu, je vous donne mes souffrances pour les âmes sacerdotales. Prenez mes souffrances pour que les prêtres soient saints et sanctificateurs. Seigneur, j'ai soif de les sauver. Prenez mes souffrances pour que les prêtres soient saints et sanctificateurs. Ouais. Voilà, cette prière pour les prêtres monte de plus en plus fréquemment dans son cœur. Marthe entend le Seigneur lui dire de manière très explicite, en pensant au Père fort, continue la mission avec lui, je te laisse à lui. Donc même si Marthe ne se sent pas toujours parfaitement comprise, elle vit du lien que Jésus a voulu entre elle et son curé. On va dire que leurs cœurs sont unis dans le même désir de faire connaître et aimer Jésus. Continue la mission avec lui, je te laisse à lui. Et quelle est cette mission à laquelle Marthe sent que le Seigneur l'appelle? Pas une simple mission de prière et d'offrande comme la petite carmélite de Lisieux, mais une mission que le Seigneur lui révèle peu à peu et qui doit être partagée avec le prêtre que le Seigneur a mis près d'elle. En 1934, Marthe demande à son curé l'ouverture d'une école. Marthe aimait son village. Elle sentait les menaces qui pesaient sur la jeunesse. Et à Châteauneuf, il n'y avait plus d'école libre. Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, les congrégations avaient été expulsées et Marthe n'a jamais été à l'école libre. Elle n'a jamais connu l'école libre, elle a fréquenté toujours l'école laïque. Eh bien, on a du mal à mesurer le défi que ça représentait. Ouvrir une école libre à Châteauneuf, voilà, dans un village qui était très marqué par l'anticléricalisme et la laïcisation. La plupart des confrères du Père Fort lui ont dit « Mais tu es complètement fou !» Mais le Père Fort a suivi. Si insensé que paraisse le projet. Et ensemble, chacun à leur place, Marthe et le Père Fort ont œuvré pour cette école, qui est maintenant une branche féconde du foyer. Les contours de la mission de Marthe ne s'arrêtent pas à la création de la petite école. Elle entend toujours cet appel pressant, ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. Bien sûr, le feu de l'amour peut s'allumer dans le cœur des enfants. Leur prière obtient des grâces merveilleuses. Mais tous doivent pouvoir s'abreuver aux sources de l'amour. Je t'ai choisi, dit Jésus à Marthe, pour ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint, pour me servir d'auxiliaire et révéler mon œuvre. Je ferai de toi une flamme de cet incendie que je veux allumer sur la terre. Jésus révèle à Marthe qu'il veut faire quelque chose à Châteauneuf même, révéler mon œuvre. Donc dans son village, dans sa paroisse. Il faut du temps à Marthe pour accepter la part qu'elle doit y prendre. Elle comprend peu à peu que cette œuvre pourra voir le jour grâce à un prêtre que le Seigneur va lui envoyer. Le 10 février, c'est ainsi que le 10 février 1936, un certain abbé Finet, Georges Finet, arrive à la petite ferme de la Plaine. Il a été sollicité pour apporter à Marthe un tableau de Marie médiatrice pour la petite école. Il parle longuement avec Marthe. La conversation est décisive. Après avoir parlé pendant une heure de la Sainte Vierge, puis avoir parlé pendant une heure de la France, Marthe dévoile au Père Finé les vues du Seigneur. Elle lui demande, de la part de Dieu, de fonder le premier foyer de charité à Châteauneuf-de-Galors et d'y prêcher des retraites de 5 jours en silence. J'ai une demande à vous adresser de la part de Dieu. C'est vous qui devez venir à Châteauneuf pour fonder le premier foyer de charité. D'abord interloqué, le Père Finet accepte. La première retraite a lieu en septembre 1936 dans l'école qui s'est ouverte 2 ans plus tôt. Les foyers de charité sont nés de cette rencontre, rencontre d'un prêtre et d'une laïque pour un projet missionnaire complètement fou pour l'époque, et ils se sont lancés dans l'aventure. Se lancer dans l'aventure dans un village perdu, inconnu de tous. Une communauté de laïcs s'est formée autour du Père Finet. Ils mettent en commun leurs biens, à l'exemple des premiers chrétiens. Prêtres et laïcs vivent ensemble la mission. Pas l'un sans l'autre et pas l'autre sans l'un. Marthe avait pressenti, avant le concile, l'importance du laïcat. Lors de sa rencontre avec le Père Finet, en 1936, je lui ai dit « Le laïcat va avoir un rôle très important à jouer dans l'Église. » Et l'aspect particulier de la vision de Marthe, c'est que ce laïcat est très lié au sacerdoce ministériel et engagé avec lui dans la mission. Alors, comment Marthe a-t-elle vécu le lien avec le Père Finet? Ben, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Donc, voilà, je ne chercherai pas à tout dire, mais souligner simplement quelques points. La fondation s'est faite dans des moments difficiles. Le Père Finet n'a pas été tout de suite libéré pour l'œuvre, et très vite, il a été mobilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, donc, ils sont rencontrés en 1936, première retraite en septembre 1936, puis le Père Finet doit continuer son service de l'enseignement libre à Lyon. Et après, 1939-1945, ben c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais même s'il n'est pas souvent là au début, Marthe trouve en lui un appui. Il est solide et bien armé pour accompagner une mystique. Il s'entend bien. À travers lui, Marthe découvre la paternité de Dieu. C'est aussi un apôtre ardent qui va prêcher des retraites et qui invente beaucoup de... Voilà, qui est plein de projets pour l'évangélisation. Ce qui tient à cœur à Marthe. Il a une grande influence sur Marthe. Il l'ouvre à une dimension d'église qui dépasse le cadre de la paroisse. L'influence joue aussi dans l'autre sens. Le Père Finet est touché par la proximité que Marthe a avec la Vierge Marie, par l'union qu'elle a avec Jésus. Il est à l'écoute de ses intuitions, reçoit ses conseils, essaye de suivre ce qu'elle lui suggère. Cela souvent, mais bien sûr, pas toujours, surtout à la fin de sa vie. Quand les retraites se multiplient, Marthe reçoit les retraitants. C'est sa manière de collaborer à la mission, parfois jusqu'à 60 par jour. Elle préparait souvent le retraitant à aller voir un prêtre. « Avez-vous vu un prêtre ?» disait-elle. Ou alors, carrément, « Allez voir le Père Finet !» Et parfois, c'était l'inverse. Le Père Finet renvoyait à Marthe avant de recevoir le retraitant. Ce qui est touchant, c'est que Marthe a reçu l'appel de fondation, mais elle a conscience de sa place. Un instrument humble et pauvre, choisi en raison même de sa pauvreté. L'œuvre ne lui appartient pas. Elle répétait souvent, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et elle prévient le Père Finet qu'il doit être le serviteur de cette œuvre. S'il n'y met la main, rien ne sera fait. Ça veut dire s'il ne s'engage pas avec son humanité, avec ses projets, avec sa vitalité, rien ne sera fait. S'il n'y met la main, rien ne sera fait. Mais s'il y met du sien avec vous, il détruira tout. C'est-à-dire, s'il ne laisse pas le Seigneur seul conduire l'œuvre, il détruira tout. S'il n'y met pas la main, rien ne sera fait. En fait, Marthe avertit, mais fait confiance. Elle prend le risque. Elle ne se donne pas autorité sur le Père Finet. Il peut prendre des initiatives qui lui échappent. Et ça arrivera. Sa place à elle, c'est la prière et l'offrande. Elle est partie prenante de la mission, mais en veillant à ne jamais prendre la place de ceux qui en sont responsables. Alors, en traçant à gros traits, les rencontres de Marthe ou le vécu de Marthe avec les prêtres qui l'ont accompagnée, on peut se poser la question, quel est le message que Marthe nous délivre? Est-ce que son lien avec le sacerdoce a quelque chose à nous enseigner? Parce que, quand on regarde, sa vie, sa mission, se trouve entrelacée avec celle des prêtres qui l'ont accompagnée. Alors, un premier aspect que j'aimerais souligner, c'est que Marthe a tenu toute sa place de laïque. Pas oublier qu'elle était malade, confinée dans sa chambre. Et c'est pas mal pour une laïque d'avoir reçu plus de 100 000 personnes, 600 évêques, des milliers de prêtres. C'est pas mal d'avoir soutenu tant de communautés nouvelles, d'avoir éclairé des théologiens. Elle a à la fois tenu toute sa place de laïque et à la fois elle a donné toute sa place aux prêtres. Cela de manière féconde, de manière joyeuse, de manière passionnante, parfois aussi de manière héroïque. Les prêtres qui l'ont entourée n'étaient pas tous des saints. Elle a dû parfois percevoir des choses sans pouvoir rien dire. Elle est restée à sa place. Elle n'était pas responsable de l'œuvre. Elle se situait plus comme inspiratrice que comme fondatrice. Un jour, des pères de foyer l'ont sollicité pour une question importante. Voilà que Marthe garde le silence. « Mais Marthe, vous ne dites rien ?» Et la petite voix. « Mais ce n'est pas moi qui suis responsable. Moi, je suis la prière. » Ce n'est pas peu de chose d'être la prière. Elle se laisse atteindre au plus profond d'elle-même parce qu'on lui confie un enfantement. Son existence est vouée à la rédemption. Elle disait, s'adressant à Dieu, « Mais vous savez bien, mon Dieu, que je ne puis leur servir de guide. Moi, je serai pour eux aide et lumière dans le silence, la souffrance et l'amour. » Un deuxième aspect que j'aimerais souligner, Marthe a aimé les prêtres. Et la prière pour les prêtres, c'est même une dimension spécifique de sa vocation. Elle se sait choisie pour veiller sur les prêtres. Permettez que jamais elle ne se repose ni ne s'endorme, celle que vous avez choisie pour veiller sur vos prêtres. Elle les aime parce que Jésus les aime, parce qu'ils sont les bien-aimés de Jésus. J'ai envie de dire qu'elle les aime avec l'amour même dont Jésus les aime. Vos prêtres que vous aimez tant, dit-elle en 1933, vos prêtres que vous aimez tant et que j'aime tant. Elle les aime d'un amour d'élection, un amour sauveur. J'aimerais aussi souligner un troisième aspect. Marthe a compris l'enjeu de la sainteté des prêtres. Ils ont vocation à être des multiplicateurs et leur sainteté importe beaucoup. Elle disait au père Béton en 1941, mais le prêtre est toujours un entraîneur. Dès qu'il cesse d'être un entraîneur au bien, il devient un entraîneur au mal. Parole redoutable. Pour le prêtre, il n'y a pas de milieu. Il est lumière. Dès qu'il cesse d'être lumière, il devient éteignoir. Elle continue. Le prêtre est toujours un multiplicateur. Dès qu'il cesse d'être un multiplicateur du bien, il devient un multiplicateur du mal. On comprend du coup que Marthe est vraiment prié pour la sainteté des prêtres. Le quatrième aspect que j'aimerais souligner, c'est que plus Marthe a vécu sa vocation de baptiser, plus elle l'a vécu en lien avec le sacerdoce ministériel. Elle disait, les laïcs ont besoin de prêtres, et de prêtres de plus en plus nombreux et plus saints. Pourquoi Marthe avait tellement besoin des prêtres? Les laïcs ont besoin de prêtres. Des prêtres de plus en plus nombreux et plus saints. La Marthe avait compris que son sacerdoce de baptême, notre sacerdoce commun, c'est d'offrir tout ce que nous sommes, nos actes, nos prières, nos souffrances, en union avec l'offrande de Jésus. Et cette offrande ne s'achève, ne s'accomplit que dans l'Eucharistie. Le haut lieu de l'union des deux sacerdotes, c'est l'Eucharistie. Alors vous me direz, mais Marthe ne participait pas à la messe. Bien même si elle ne participait pas à la messe, Marthe s'unissait toujours à l'offrande du prêtre à la messe. Elle écrivait dans le Père Fort en 1931, « Vous, mon Père, au Saint-Autel, chaque matin, offrez, je vous prie, la toute petite hostie que je suis à la grande et divine hostie pour les âmes. Placez-la toujours comme une lampe autour du calice, et mêler au sang rédempteur et sanctificateur toutes les intentions et aussi les misères de votre humble enfant. Offrez la toute petite hostie que je suis à la grande et divine hostie pour les âmes. Le prêtre est nécessaire pour faire monter vers Dieu l'offrande de tous les baptisés. En conclusion, quand je regarde la vie de Marthe, je vois c'est important de ne pas sentimentaliser les liens que Marthe a eus avec les prêtres qui ont marqué sa vie. On l'a peut-être un peu trop fait avec le Père Finet. En fait, ces prières pour les prêtres, pour le Père Fort, pour le Père Finet, pour les prêtres qu'elle a reçus, sont très incarnées, très réalistes. Marthe mesure à la fois la puissance dont est investi le prêtre et sa fragilité. C'est un peu comme si la grandeur du sacerdoce était confiée aux baptisés. Ils sont investis d'un pouvoir que les baptisés doivent garder par leur prière. Il a pu y avoir des dérapages. Il y en a eu. Des erreurs dans le positionnement des prêtres. Il y en a eu. Peut-être Marthe a-t-elle senti tout cela. Et pour cela, elle a souffert, prié, imploré. Il y aura toujours dans l'Église le projet du Seigneur et ce que l'homme en fait dans sa liberté. Comme un trésor qu'il nous faut sans arrêt raviver. Marthe a imploré pour qu'à la sainteté du sacerdoce ministériel corresponde la sainteté du sacerdoce baptismal. Et cela aussi bien dans la personne du prêtre, parce que c'est aussi un baptisé, et les deux doivent correspondre en lui, aussi bien dans la personne du prêtre que dans celle du baptisé non-prêtre. La sainteté, un appel à la sainteté. On est appelé à la même sainteté. Mais c'est par le sacerdoce ministériel que cette sainteté prend son sens. Et Marthe nous rappelle le prix. Jésus lui avait dit, tu ne pourras rien faire sans lui, il ne pourra rien faire sans toi. C'est vrai, mais c'est à placer avec justesse.
Merci, merci infiniment pour cette nouvelle émission et cette relation de Marthe Robin avec les prêtres. Merci beaucoup. Marthe Robin, sur Radio Maria France, chaque mois. En tout cas, merci beaucoup pour déjà ces émissions que vous avez déjà proposées à tous les auditeurs de la radio. Et voilà, Marie-Françoise, à très bientôt.
À très bientôt, Jérôme. Merci beaucoup.
Merci.